I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Eh, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cour et Donne Cour. Ça fait un an tout pile que je me suis lancé dans ce projet complètement zinzin, courir le marathon de Paris en étant obèse et handicapé. Un an aussi que je vous raconte mon histoire, ma vie perso, ma préparation, mes douleurs, mes courses, mes colères. Bref, un an de Cour et Donne Cour. Alors je me suis dit qu'on n'allait pas fêter ça avec un gros gâteau à la crème, malheureusement ça risque de me faire grossir. Mais bon, faut bien un épisode pour faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Allez, c'est parti. Bon, je suis en route pour aller chez mon kiné, Benjamin Morin. Je tenais vraiment à l'avoir dans cet épisode parce qu'il me suit depuis le début de la préparation. Depuis maintenant un an, donc je pense qu'il a vu mon évolution, et puis c'est un des seuls de mon équipe d'origine, pour les anciens, pour ceux qui étaient là du temps du premier podcast, vous savez que j'avais une équipe sportive autour de moi. Bah, cette équipe sportive s'est considérablement rétrécie, et il reste quasiment plus que Benjamin. Je l'ai gardé parce qu'il m'est hyper précieux, il m'aide vachement à passer un cap, à prendre conscience de mon corps et de ses capacités. Et il m'a vraiment réconcilié avec le métier de kinésithérapeute, parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai été suivi par des kinés, mais qui m'expliquaient que dalle, qui me mettaient des électrodes sur la jambe, et allez, c'est parti, petite séance d'électrodes, et c'est tout. Et ça me faisait chier. Pour moi, le kiné, je n'y voyais aucune utilité, je comprenais rien, je voyais pas en quoi ça pouvait m'aider avec mon handicap. Parce que de toute manière, pour moi, mon handicap n'était pas un handicap évolutif. Donc du coup, il n'y avait rien à faire. Et je ne comprenais pas pourquoi je devais aller au kiné toutes les semaines. Et franchement, depuis que je suis suivi par Benjamin, j'ai vraiment une autre approche de cette discipline. Et puis en plus, il me suit dans un contexte bien précis, dans une préparation au marathon. Lui, c'est un spécialiste de la course. Donc voilà, je tenais vraiment à avoir Benjamin dans l'épisode, parce que je pense que dans son discours, bah, ça peut vous apporter beaucoup, vous, si vous êtes coureur, parce que ce qu'on a réussi à mettre en place cette année, bah, ça peut vous être utile si vous êtes coureur débutant et que vous ne savez pas très bien comment appréhender la course. Donc en tout cas, chez moi, ça a été une grande réussite. J'arrivais à peine à courir 200 mètres. Avec mon handicap, je craignais vachement la blessure. Maintenant, je cours 15 km sans problème. Je sais que demain, je vais réussir à courir un semi, mais les doigts dans le nez. Et je suis en confiance. Et c'est franchement grâce à Benjamin en très très grande partie. Je n'oublie pas de remercier aussi au passage Bilal El Atrebi, mon coach du début, qui m'a vachement aidé dans la partie renforcement musculaire, etc., qui m'a vachement accompagné dans ma première perte de poids et qui m'a aidé à appréhender la course lui aussi. Je l'oublie pas, franchement, je lui dois beaucoup et je regrette qu'il soit plus avec nous. Après, il y a d'autres personnes dans l'équipe que je tiens vraiment à remercier. Je peux parler de Laurie Desgrémont, spécialiste en nutrition du sport, qui m'accompagne et qui m'a vachement aidé à perdre du poids. Malheureusement, je ne suis pas aussi fier de ma perte de poids que de mes progrès en running. Je suis à moins 10 kilos depuis, depuis le début de la préparation. Donc moins 10 kilos, c'est bien. Mais en réalité, quand on se penche un peu dans le détail, j'ai pas perdu de poids depuis mars. J'ai pas mal pris de poids à un moment donné. Je suis revenu à mon poids de mars, là. Je suis revenu à mon poids d'avant confinement. Mais depuis, j'ai pas progressé. Et franchement, ça me fait chier. Je suis pas fier de moi là-dessus. C'est le gros point noir de ce début de préparation. C'est ma difficulté à perdre du poids. C'était un de mes défis principaux quand je me suis lancé. Il fallait que je perde du poids parce que je sais que sinon, je vais pas pouvoir atteindre mes objectifs. Franchement, à 105 kilos, je pourrais pas courir le marathon. Donc il va falloir que je me mette une pile là-dessus. Donc voilà, je suis arrivé chez Benjamin et on va parler de cette première partie de préparation. Ça fait un an qu'on se voit maintenant. Je voulais savoir ce que tu pensais de ma progression. Déjà, est-ce que j'avais progressé ou pas? J'espère en tout cas. Mais surtout, quels sont les points sur lesquels... T'as pu voir que j'avais avancé ou pas d'ailleurs?
Alors, en effet, oui, t'as progressé clairement, vu qu'on partait pas de rien, mais presque, sur ta capacité du coup à tenir un certain volume en course à pied. Et aujourd'hui, on voit que, en termes de sorties en course à pied, t'arrives à courir régulièrement, à avoir des sorties qui sont de plus en plus longues, sans pour autant te déclencher de blessures. Donc, ça, c'est le point qui est le plus satisfaisant. Et sur l'aspect kiné, toi, ton évolution, beaucoup axé sur les assouplissements, parce que t'es assez raide et puis t'es, de par l'hémiplégie, t'as des asymétries de rigidité en plus. Donc pour obtenir une biomécanique de course qui soit entre guillemets sécuritaire, faut qu'on bosse beaucoup sur les assouplissements. Donc ça, t'as assez évolué là-dessus, c'est vraiment cool, mais tu restes encore bien raide, t'es un peu moins raide on va dire. Et la grosse satisfaction aussi, c'est qu'en termes de renforcement, tu fais bien l'effort de ton côté, donc c'est hyper encourageant. C'est bien qu'on ait réussi à faire les choses de manière progressive là-dessus.
Parce que je me souviens, ce que tu m'avais dit, ça m'avait marqué, c'est qu'il fallait surtout pas se précipiter. Et la première fois qu'on s'était vu, je m'attendais à ce qu'on aille direct sur le terrain pratique. Et tu m'avais fait un cours très théorique où tu m'avais expliqué ce qui était... Alors, je ne sais plus les termes exacts. Le stress mécanique, c'est ça?
Ouais, la quantification du stress mécanique et du coup, cette définition qu'est la capacité du corps à s'adapter au stress mécanique. L'idée, c'est d'être conscient que dans une pratique sportive nouvelle, comme l'est la course à pied pour toi, mais même pour un coureur habitué, c'est que quand on va faire varier le volume de pratique de course à pied, donc des sorties de plus en plus longues, et le stress mécanique qui va être appliqué sur notre corps va varier, va changer. Et donc, il faut préparer le corps et y aller vraiment très graduellement pour pas dépasser le seuil de tolérance de notre corps. Donc il faut savoir que sur une foulée en course à pied, on va stresser différents tissus, et ces tissus ont chacun des seuils de tolérance différents, et l'idée c'est que plus on va courir régulièrement, plus tu vas pouvoir entraîner ton corps. Donc tu vas gagner en capacité musculaire, en tolérance au niveau de ton corps, et tu vas solidifier ton corps. Donc cette progressivité, elle est importante pour gagner en capacité, solidifier ton corps et être de plus en plus capable de faire de la course à pied à certains volumes.
Ouais, il y a un truc moi qui me tracassait d'ailleurs dès le départ, et je sais que pas mal de coureurs en surpoids ont vachement peur de ça, c'est les douleurs au niveau du dos.
Alors, chez tout coureur à pied, de par l'impact fourni par la course à pied et la capacité du coureur qui peut varier dans sa capacité de modération de cet impact, le dos peut souffrir de la course à pied si le volume appliqué n'est pas progressif suffisamment. Et chez toi, la particularité, c'est ces fameuses rigidités qui t'amènent du coup à avoir un stress appliqué sur ton dos, qui va être un peu asymétrique également, qui va être un peu, en gros, où tu peux vite te retrouver à mécaniser ton dos de manière un peu inhabituelle sur une foulée qui est pas habituelle chez toi vu que tu débutes en course à pied. Et donc c'est là où il faut habituer ton dos à cette mécanique-là et l'habituer progressivement.
Et pour le coup, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éviter ce type de douleur? Faut, dès qu'on ressent la douleur, diminuer le volume de course? Faut arrêter complètement la course? Tu préconises quoi, toi?
Alors, mes conseils vont être vraiment à individualiser à chacun. Donc je vous invite, pour les personnes qui nous écoutent sur ce podcast, à prendre avis en tout cas de doute auprès d'un professionnel de santé, un kiné spécialisé dans la course à pied par exemple. Ce que je conseille, c'est de ne pas couper pleinement le volume en course à pied. mais de diminuer tout simplement nos habitudes et nos dernières séances. Par exemple, si cette semaine-là, j'ai couru un petit peu plus que d'habitude, je vais rediminuer, je vais faire peut-être que la moitié de ce que j'avais l'habitude de courir en termes de volume, et je vois si c'est tout autant sensible. Parce que si c'est une douleur qui est provoquée uniquement par la pratique de la course à pied, je peux jouer juste sur le volume de stress appliqué sur mon dos pendant ces séances-là. Par contre, si c'est une douleur qui est présente et invalidante au quotidien, la journée, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à bouger, à me relever d'une chaise, etc. Ben là, ça vaut le coup de d'abord mettre des choses en place pour nous permettre de passer ce stade aigu. Mais sur un stade qui devient chronique et qui devient moins invalidant, ça reste une petite gêne de fond. Là, il faut vraiment se mécaniser. Le dos, il aime bien bouger. Le plus important, c'est de faire bouger son dos. Bien souvent, des douleurs au dos, c'est un dos qui n'est pas suffisamment habitué à bouger et qu'on a fait bouger un peu trop, ou alors un dos qui n'a pas du tout l'habitude de bouger. Donc l'idée, c'est vraiment de faire bouger son dos, mettre du mouvement au niveau du dos.
Quels sont les conseils que tu donnerais à un coureur débutant, à une personne qui a envie de se lancer dans la course, qui n'a jamais couru de sa vie, qui est peut-être en surpoids ou non, handicapé ou non, mais en tout cas qui a envie de se lancer?
Je lui dirais déjà bravo, parce que la démarche en elle-même est hyper intéressante dans la promotion de l'activité physique et dans le bien qu'elle va s'apporter à elle-même dans la prévention de plein de pathologies de santé qu'elle pourrait avoir, qu'elle pourrait rencontrer. Donc déjà, la perspective de se lancer là-dedans, c'est top. Et après, donc il y a ce principe numéro un qui est le respect de la bonne quantification du stress mécanique que j'ai évoqué, cette notion de progressivité. Pour la petite parenthèse, c'est un concept qui est développé par des Canadiens de la clinique du coureur que vous pouvez retrouver sur leur site internet, tout est référencé dessus. Et après, les autres éléments importants, ça va être d'essayer de mettre en place le plus possible des moyens de modération d'impact. L'idée, c'est plus vous allez courir en étant léger à la course, plus vous allez minimiser cet impact. Donc si vous faites un bruit d'hippopotame quand vous courez, c'est pas l'idéal. Essayez de vous rendre le plus silencieux possible, le plus doux, le plus léger possible.
Il y a un truc, moi, qui m'avait vachement aidé. Tu m'avais dit, n'hésite pas à multiplier tes pas.
Ouais, l'augmentation de cadence, de manière générale, est quelque chose qui est plutôt dans le sens de cette modération d'impact. Donc c'est quelque chose qu'on va plutôt avoir tendance à donner comme conseil, plus ou moins de manière importante chez les gens. Les gens qui ont une cadence très très faible, ils auront un vrai intérêt à venir augmenter un petit peu cette cadence. Et en fait, la cadence va permettre d'avoir de plus en plus de pas au sol, et donc du coup d'avoir des foulées qui soient un petit peu moins source d'impact accentué, entre guillemets. En gros, ça va nous permettre de mettre en place des moyens de modération d'impact plus simplement.
Il y a un truc sur lequel j'ai eu du mal à bosser cette année, c'est ma gestion de ma vie à côté de la course. Parce que emploi du temps chargé, pas toujours une bonne alimentation, et puis en plus à côté j'ai des loisirs qui font que je dors très peu la nuit puisque je suis la NBA, et je me souviens que très tôt dans notre préparation tu m'avais sorti l'exemple du verre d'eau.
Ouais, c'est un exemple que j'aime bien parce que c'est quelque chose qui est assez parlant pour tous les coureurs à pied qui se questionnent un petit peu sur le risque de blessure. Je vais vous expliquer la théorie du verre d'eau, c'est assez simple. Un athlète de n'importe quel niveau, il va se blesser le jour où son verre d'eau, entre guillemets, l'image du verre d'eau déborde. Toute la journée, en fait, en fonction du stress qu'il va ressentir dans sa journée, le niveau de l'eau va monter tout simplement. Puis en général, dans la journée, il va y avoir la session en course à pied qui va ajouter également cette bille d'eau dans le verre. Et donc si dans votre journée vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas bien dormi, ça ajoute déjà une bille d'eau dans le verre. Puis dans la journée, si au niveau pro vous avez beaucoup de stress qui va s'appliquer, vous allez ajouter encore une bille. Puis si dans votre couple ça ne va pas bien, vous allez ajouter encore une bille. Et puis il y a plein d'éléments comme ça de la vie de tous les jours qui vont faire que votre verre d'eau va augmenter son niveau au fur et à mesure. Puis si ce soir-là vous vous dites, putain, il n'y a rien qui va, je vais aller courir, ça va me faire du bien, je vais me défouler et puis je vais courir un petit peu plus que d'habitude. Là, on va rajouter une grosse bille dans ce verre qui est déjà à ras bord, et là, c'est une source de blessure assez importante. Donc soyez à l'écoute juste de différentes sphères de votre vie, et de faire en sorte que vous n'ayez pas toutes ces sphères qui soient dans le rouge en même temps. Sinon, là, c'est la blessure un peu assurée. Donc allez courir, ça va vous faire du bien, mais courez un volume qui est cool, à une vitesse qui est plus cool, parce que vous avez une journée de merde, et puis que vous n'avez pas beaucoup dormi.
Moi, j'avais juste une dernière question. Donc là, maintenant, ça fait un an qu'on bosse ensemble. A priori, il va nous rester encore un peu moins d'un an avant le marathon. Qu'est-ce qui me manque pour atteindre cet objectif ?
Qu'est-ce qui te manque pour atteindre cet objectif? Déjà que le Covid se calme un peu. Et il te manque principalement du temps, donc on va en avoir un petit peu devant nous. Et en soi, il te manque pas grand-chose, mais comme tout coureur qui débute en course à pied, il demande le temps de s'endurcir à la course et de solidifier ses structures. Et donc, ce qui est cool, c'est que tes structures, elles demandent que ça. Mais il faut qu'on soit progressif. C'est le mot qui va être répété tout le long de cet épisode, mais progressif, progressif, progressif. Et en soi, il te manque pas grand-chose, mais juste une bonne tolérance à l'effort, et c'est quelque chose qu'on acquiert dans le temps.
Bon, il me reste quand même pas mal de temps avant ce marathon maintenant, mais je t'avoue que je mesure la route aussi qui me reste à parcourir. Pour ceux qui habitent à Paris et qui seraient intéressés à l'idée d'avoir un suivi avec toi, ça se passe comment? On peut prendre rendez-vous encore?
Oui, nous après, tout ce qui est prise de rendez-vous, on a un cabinet qui est spécialisé vraiment dans la pathologie du sportif et plus précisément sur la course à pied. Donc on est vraiment ouvert à toute recherche de conseils ou de suivi chez Kiné Boétie. C'est un cabinet qui est dans le 8e arrondissement. Donc on est toute une équipe de kinés à suivre les coureurs à pied, principalement parisiens. Mais donc voilà. Donc pas de soucis.
Top. Eh ben merci beaucoup. Assia, ça fait un an.
On fait le bilan calmement, sereinement.
J'ai déjà fait la vanne.
Ah merde. Je n'ai même pas foutu de connaître le pas, j'ai zappé les paroles en plus.
Le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. Mmh. Ah ouais, tu connais vraiment pas les paroles?
Si, je connais, mais j'ai un peu zappé.
Mais en plus, ça nous correspond bien, parce que beaucoup de choses ont changé.
Ah ça, de très belles choses sont arrivées, on a beaucoup de chance.
Ouais, purée. Ce petit mec, je m'y fais pas, hein.
Ouais, je m'y fais grave. C'est drôle, c'est comme s'il avait toujours été là.
Ouais. Après, il change quand même beaucoup de choses, hein.
Ouais, c'est sûr. Il nous prend tellement de temps.
Et tellement d'énergie.
Il dort pas. Enfin, il dort la nuit, ça c'est génial, mais la journée a rien à faire.
Il fait ses nuits, c'est un délire quand même. On a une chance de ouf par rapport à ça. Mais la journée, c'est une pile, hein.
Bah, d'ailleurs, si on peut faire le bilan sommeil, on peut dire que tu dors plus qu'avant.
Ouais, c'est vrai que ça, c'était un de mes problèmes. J'avais du mal à dormir, vraiment. Et je dormais très peu, je me faisais des nuits courtes. Mais ça, depuis toujours. Mais là, depuis que j'ai bébé, il me déglingue tellement la journée, et notamment en soirée, quand je m'occupe vraiment de lui. Il me prend tellement d'énergie que dès qu'il s'endort, il s'endort vers les coups de 23h minuit. Mais je me couche direct.
C'est ça qui est paradoxal et qui est super drôle, c'est que les jeunes parents ont tendance à se plaindre du fait qu'ils dorment plus du tout. Toi, c'est le contraire. Je trouve qu'en termes de sommeil, tu récupères vachement. Et comme justement, tu es très fatigué et tu te couches, c'est vraiment un sommeil profond et réparateur.
Et il n'y a pas eu Kidris cette année. Ça a été une année folle pour tout le monde, très bizarre pour tout le monde, mais pour nous, hyper riche. Comment tu résumerais cette année, toi?
Ça a très bien commencé, 2020 a super bien commencé, t'avais une équipe de fous, t'étais super bien entouré, motivé à fond. Puis ensuite vient la première course, qui a été un succès. Trop trop fier de toi, c'était super. La première
course. Les 10 km.
De Vincennes, c'était vraiment génial. Puis peu de temps après, quelques semaines plus tard, on a appris qu'il y avait ce virus. Donc confinement, et là ça a été le choc. Parce que confinement, du coup, plus de séances de sport avec Bilal, donc forcément un relâchement. Ensuite, il y a eu un gros coup au niveau du moral.
Je dirais pas ça comme ça, parce que dans les premiers temps du confinement, je me suis pas relâché. Je m'entraînais tous les jours à la maison, j'étais assez chaud, j'avais complètement arrêté la course parce que je voulais pas courir pendant le confinement. Mais j'ai pas relâché la pression tout de suite. En réalité, c'est quand j'ai appris que la première version du podcast était en train de s'arrêter, quand j'ai appris que Charles de Cidia, qui faisait partie de l'aventure depuis le début, ne pourrait plus travailler avec moi, quand j'ai appris que le podcast était en train de s'arrêter, tout simplement, et du coup je savais pas si le projet pouvait continuer ou pas, à ce moment-là je me suis relâché, parce qu'à ce moment-là je te jure que tu l'as bien vu, toi, de toute façon. J'étais grave déprimé, j'étais au fond du trou.
Ah, on était grave déprimé, moi aussi, c'était un gros coup de massue, hein. On s'est battu quand même pour pouvoir continuer le projet, et je suis super fière de nous, parce que et surtout de toi, quoi. Toi, vraiment, quand t'es déterminé, tu l'as à fond. On a réussi à récupérer le projet et c'est génial et on va aller au bout. Mais c'est vrai que moralement, ça a fait un gros coup, quoi. Et c'est vrai que du coup, tu t'es un peu relâché parce que s'entraîner pour rien, c'est pas pour rien parce que t'es gagnant au final. C'est aussi pour une question de remise en forme. Donc tu t'entraînes forcément, c'est pas pour rien. Mais la motivation n'est plus la même, l'envie n'est plus la même. C'était vraiment une période déprimante.
Après, je suis fier de moi parce que même s'il y a eu du laisser-aller, notamment au niveau du poids, parce que cet été, je suis remonté à 108, donc il y a eu un gros relâchement, mais j'ai jamais complètement lâché le sport. Jamais, jamais, jamais. À aucun moment, j'ai laissé passer une semaine sans faire du sport. Et vu ce qui s'est passé entre le confinement, le flou autour du podcast, etc., bah, j'aurais pu lâcher l'affaire et baisser les bras. Jamais je me suis totalement laissé aller. Et là, je suis à 3000%. Il y a un peu plus d'un mois, juste avant la naissance d'Idriss, bah, j'ai réussi à courir 15 km. C'était ouf. Là, depuis la naissance, bien évidemment, j'ai un peu relâché parce qu'il faut qu'on trouve notre rythme. Et il faut que moi, personnellement, j'arrive à me remettre à 100% dans le sport avec bébé à la maison, la difficulté à gérer les repas, le télétravail, etc. C'est un peu chamboulé en ce moment, mais je suis bien et je suis hyper confiant. Et ouais, franchement, de cette année, je suis vraiment déçu par rapport à ma perte de poids. Je pensais que je perdrais beaucoup plus de poids, mais j'ai pas été sérieux. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Sur la course, franchement, je m'attendais pas à tel progrès. Donc je suis hyper, hyper, hyper satisfait. Et par contre, il y a un truc qui me rend encore plus heureux que ma progression, c'est comment le podcast a été perçu par les auditeurs. Parce que je t'avoue qu'il y a un truc qui me faisait flipper, c'est vu qu'on met beaucoup d'intime, beaucoup de nous-mêmes, j'avais pas envie que ce soit perçu comme un projet mégalo, parce qu'on a un peu les Kardashians de la course. Et moi, je suis Chloé.
Je savais que t'allais dire ça. Bon, on veut tous être Chloé.
Je sais pas si on veut tous être Chloé, c'est une bonne question.
C'est l'outsider. C'est la sœur sous-estimée, c'est celle qu'on qualifie de moins jolie, c'est tu vois quoi, c'est la petite fille obèse qui devient femme hyper forte, hyper féminine, hyper sûre d'elle. Tu vois, c'est la sous-côté, mais qui bat tout le monde.
Non, mais tu vois le côté Kardashian de la course, tu vois ce que je veux dire. J'avais peur que ce soit mal perçu, j'avais peur qu'on comprenne pas l'ambition du projet. Et dès les premiers temps, en réalité, j'ai reçu des messages qui m'ont prouvé le contraire. Tu te souviens du message de la maman d'enfant hémiplégique ?
Ah, il était tellement... Tu en as reçu plusieurs, de parents, hein. Même sur Twitter, pas seulement sur Instagram, mais c'est super touchant.
Ouais, j'en ai reçu beaucoup de messages de parents d'enfants hémiplégiques, mais il y en a un qui m'a grave touché. C'est une mère qui ne voulait pas que son enfant fasse du skate parce qu'elle avait peur pour lui, parce qu'avec son hémiplégie, elle ne savait pas s'il en était capable ou pas. Et en écoutant mon podcast, bah, s'est rendu compte que moi, j'avais fait plein de choses dans mon enfance et que là, aujourd'hui, je me lance dans un projet encore ouf. Et elle s'est dit, bon, bah, il n'y a pas de raison. Je crois que son gamin a 6-7 ans et elle a laissé faire du skate. Alors, elle a surprotégé, mais elle a laissé faire du skate.
Ça, c'est magnifique. Mais pour moi, le but du projet, il était là aussi. C'était aussi une manière de sensibiliser les gens, de leur dire que tout est possible, quoi. C'est pas parce qu'on a un peu plus de mal que les autres qu'il faut pas le faire. Tu vois, et ça fait plaisir de normaliser ça.
Ouais, mais c'est le bon mot, en réalité. C'est vraiment la normalisation, c'est ce qui est au cœur du projet. Et je crois que vous percevez la sincérité du process, de nos discussions avec Asia et tout, et ça fait vachement plaisir. Et franchement, je vous jure, hein, c'est vraiment couillon de dire ça, ça fait vraiment youtubeur de merde, tu vois. mais le truc le plus fort de cette année, c'est l'interaction qu'on a eue avec vous. Même s'il y a des gens qui me font chier sa mère, c'est bon, je me lâche. Je vous le dis franchement, il y a des gens, ils pensent, mais j'ai envie de les insulter, c'est bon, je suis vénère. C'était mignon et tout, mais je suis vénère. Il y a des gens qui pensent
que quand on est handicapé, on est leur petite chose. Donc, quand on m'envoie un message qui commence par « mon Redouane », Non, je le dis, Assia, je te vois gesticuler.
Oh, t'es
non,
t'es méchant, c'est mignon.
Non, je suis pas mauvais. Non, c'est pas mignon.
C'est pas infantilisant tout le temps non plus. Parfois, c'est un signe. Je vois, il y a certains commentaires qui sont clairement infantilisants. Et ça, c'est insultant. Parce que t'es quand même un grand gaillard, t'es quand même un costaud et tout. Tu vois, t'es un bonhomme. On n'a pas à te dire ma petite chose. Mais arrête, parfois, c'est totalement innocent et faut faire la différence.
Eh, les gens qui m'infantilisent, eh, franchement, si vous savez comment j'en fous de vous déglinguer. Mais sérieusement, je vous le dis franchement.
Je le retiens.
Les 95% de messages que je reçois, mais qu'est-ce que je vous kiffe. Vous êtes franchement, vous me faites du bien, vous me faites rire, vous êtes franchement vraiment good vibes, dans un bon esprit et tout. Mais les gens qui me balancent du mont Redouane, franchement, je vais être vulgaire. Laisse tomber, reprends le micro.
Non, mais je comprends, c'est vrai que les personnes handicapées, on les infantilise trop. Voilà, c'est. On leur témoigne trop de signes d'affection.
Il y a un mec une fois qui m'a dit mon petit Redouane. Non mais hey, il a pas vu le gaillard. Hein.
Il a pas vu le gabarit. C'est... Non mais je comprends. Non mais je te comprends totalement. C'est pas moi qui le vis. Hein. Donc si ça t'énerve, t'as tes raisons. Hein.
Et en tout cas, je suis bien content que Redouane Court soit aujourd'hui produit par nous, nos petites mains. Là, c'est le troisième épisode. Avec en plus l'épisode Renaissance. Donc ça fait 4 épisodes qu'on fabrique. Et je prends énormément de plaisir. Je vais pas vous le cacher, hein, c'est vachement dur par moment. C'est même de plus en plus dur de cracher des épisodes. Celui-ci, en l'occurrence, il a été très dur à enregistrer, très dur à monter. J'ai plus d'énergie avec ma vie familiale, le boulot... France Inter, Click TV, etc. C'est beaucoup pour moi. Donc, en plus, m'occuper de toute la production de Redouane Court, bah c'est assez lourd. Mais même si c'est très fatigant, je prends toujours énormément de plaisir à faire ces enregistrements et je prends énormément de plaisir à faire du sport. Pour tout vous dire, je pensais que je me lasserais. Mais franchement, là, je vous dis, je suis bien parti et je suis motivé comme au premier jour. Par contre, je tiens à vous le dire, j'ai besoin de vous plus que jamais. Ce projet, il marchera qu'avec énormément de monde derrière. Donc j'ai vraiment besoin que vous le partagiez à vos proches. Il va fonctionner avec du bouche à oreille. Donc on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de vos relais. C'est votre manière à vous de me donner de la force. Je sais pas si vous vous souvenez, Assia déteste ce dessin animé, mais moi, dans Dragon Ball Z, quand Son Goku, à un moment donné, il lève ses mains au ciel et qu'il demande de la force aux terriens pour vaincre Boo, et bah, c'est un peu ce que je vous demande là. Donnez-moi de la force, j'en ai besoin pour tenir encore 11 mois. J'ai besoin de vos commentaires, de votre bonne humeur, de vos partages. Venez, on rend le truc... encore plus grand, ensemble. Bon, Idriss est en train de se réveiller, donc on va vous laisser. N'oubliez pas de mettre vos petites étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide vachement. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram redouane.podcast.
Vous l'avez entendu, et puis surtout, merci de nous avoir écoutés.
Et à bientôt. Ciao. T'inquiète, Idriss, on arrive.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.